Docteur Félix Kabangé-Nundi, bonjour.
Bonjour.
Pendant un mois, les vaccins BCG manquaient dans les hôpitaux dans toutes les provinces, à l'exception du Nord Kivu. Les bébés sont sortis des maternités sans être vaccinés. Et franchement, c'est une situation normale.
Je pense que c'est beaucoup plus les seringues qui ont manqué parce que le vaccin a déjà été distribué. Voici la situation que j'ai trouvée. Les commandes sont faites au même moment pour le vaccin et pour les seringues. Le vaccin, c'est une denrée périssable, une denrée très fragile, très sensible, ce qui fait que les vaccins viennent par avion. Mais les seringues viennent par bateau, parce que ce sont des grosses quantités. On ne peut pas les mettre dans les avions, parce que sinon, le vaccin risque de coûter trop cher. Alors, les seringues arrivent avec 3 mois de retard minimum. Donc, vous comprenez, c'est pourquoi, à un certain moment, on parle de rupture de vaccin, mais en réalité, il n'y a pas rupture de stock de vaccin, mais il n'y a pas les intrants qui doivent accompagner le vaccin. La situation actuelle est en train d'être corrigée, je vous apprends que nous avons reçu les seringues pour le BCG qui sont en train d'être distribuées sur l'ensemble de la République. Et nous avons pris une autre décision, c'est que maintenant que nous venons d'avoir le vaccin et les seringues, dans les 2-3 mois qui suivent, nous allons faire la commande de seringues. De sorte que la commande de seringues puisse précéder la commande de vaccin.
Et vous venez des États-Unis, il y avait quoi là-bas?
Il y a eu un grand forum sur la survie de l'enfant, appel à l'action, financé par le gouvernement américain. Nous sommes allés représenter la RDC, étant donné qu'au monde actuellement, il y a 5 pays dont les décès des enfants de moins de 5 ans représentent plus de 50% des enfants de moins de 5 ans qui meurent à travers la planète. Et ces pays, c'est l'Inde et le Pakistan pour l'Asie, c'est le Nigeria, c'est l'Éthiopie et c'est la République démocratique du Congo pour l'Afrique. Voilà, il était question que nous puissions aller échanger avec les autres pays du monde pour renouveler la promesse pour les objectifs 4 et 5, parce qu'il faut aujourd'hui accélérer la réduction de la mortalité des enfants de 0 à 5 ans, étant donné qu'en 2035, nous devons arriver à 20 pour 1000. Aujourd'hui, la RDC, c'est 158 pour 1000 décès pour 1000 naissances. Ça veut dire qu'en RDC, 232 enfants meurent chaque heure de moins de 5 ans. Ça veut dire qu'en RDC, chaque minute qui passe, il y a 4 enfants qui meurent. Si nous avons déjà fait 10 minutes de conversation sur le journaliste, ça fait plus de 40 enfants qui meurent. Voilà pourquoi vous sentez que nous sommes très intéressés et très attentifs à tout ce qui concerne la santé des enfants de 0 à 5 ans, parce que chaque enfant a droit à son 5e anniversaire. Nous avons pris des engagements, nous avons présenté la situation de la RDC. Un premier point positif pour la RDC, depuis janvier jusqu'à maintenant, la RDC n'a notifié aucun cas de poliovirus sauvage. Il y en a eu 93 l'année passée, 100 l'année d'avant. Cette année, jusqu'en juin, aucun cas de poliovirus sauvage. Cette situation, nous voulons qu'elle puisse se répercuter sur les autres axes de la santé en RDC. La RDC a un grand défi, c'est celui d'accélérer maintenant, dans les 5 prochaines années, que nous descendions en dessous de la mortalité à 3 chiffres. Qu'on descende en dessous de 100. Mais l'idéal serait qu'en 2016, au moment où nous terminons cette législature, que nous puissions ne fût-ce que diminuer de moitié. Mais nous avons demandé que les États-Unis s'impliquent davantage également par rapport à la situation de l'Est, mais également nous appuient en tant que partenaires privilégiés.
Les Kinois s'interrogent. Qu'en est-il de l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire? Elle traîne cette inauguration pourtant annoncée avec pompe.
J'ajoute à votre question, ce ne sont pas seulement les Kinois, parce que nous avons 2 hôpitaux du cinquantenaire. Il y en a un ici à Kinshasa, un autre à Kisangani. Les habitants de Kisangani s'interrogent également. Ils se posent la question si ce n'est pas un éléphant blanc qu'on leur a construit au niveau de Kisangani. Je pense que vous avez suivi dans le programme du gouvernement et même dans le programme de 100 jours, nous avons inscrit les 2 hôpitaux du cinquantenaire. Ils vont être ouverts dans les tout prochains jours. Je ne sais pas donner une date exacte. Pour celui de Kinshasa, nous nous battons avant octobre, donc d'ici août ou septembre pour voir ce qui peut être fait. Mais voici le premier défi. Le premier défi, c'est celui du personnel. J'aimerais vous rappeler, monsieur le journaliste, que nous avons un grand hôpital ici à Kinshasa, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, qui a été inauguré, où on a mis du personnel. Chacun a recommandé son frère. Nous nous sommes retrouvés avec un hôpital où le comité de gestion ne maîtrisait personne. Même la balayeuse, elle a été recommandée par quelqu'un. Quand elle ne balaye pas, le médecin chef de zone tombe sur la balayeuse, elle appelle la personne qui l'a recommandé, qu'ici on est en train de me gronder, et on tonne sur le médecin directeur. Ça, plus jamais dans le secteur de la santé. Nous nous sommes dit, nous allons recruter des maisons. Ces maisons peuvent être nationales ou internationales. Nous sommes dans la procédure de passation de marché. Dès qu'ils sont recrutés, vous allez souffrir. Ils ne sauront pas entrer dans cet hôpital et commencer à travailler. Je vous inviterai un jour que nous allions découvrir cet hôpital. Quand je suis entré dans cet hôpital, personnellement, je n'ai rien à comparer avec les hôpitaux d'Afrique du Sud, les hôpitaux de Brazzaville, celles que j'ai visitées. Pourquoi pas même l'hôpital John Hopkins des États-Unis. C'est un hôpital de la troisième génération. C'est un hôpital ultra moderne. Donc le personnel qui sera recruté va passer environ un mois à la formation. Parce que tout sera géré de manière électronique au niveau de cet hôpital. Ça, c'est le défi d'organisation. Le deuxième défi, c'est le défi de gestion. Je vous informe que cet hôpital, dans le budget qui est prévu, l'équipe qui a travaillé, c'est pas moins de 2 millions de dollars par mois pour son fonctionnement. Il y a différentes maisons qui sont en train de nous contacter. Nous essayons de discuter avec ces maisons pour un partenariat public-privé. Mais déjà, au cas où ce partenariat n'est pas conclu d'ici octobre, dans le budget qui sera voté, nous l'espérons, cette semaine, donc au niveau du Parlement, nous avons prévu déjà le premier fonctionnement. Le gouvernement est déjà prêt à supporter les frais de gestion au début, mais il est important que nous ayons un partenariat public-privé. Donc les deux hôpitaux seront ouverts, je confirme. Avant la fin de cette année, c'est un défi. Nous devons ouvrir ces hôpitaux et ces hôpitaux seront fonctionnels.
Beaucoup de décès par anémie signalés ci et là dans tous les pays, mais surtout au Nord Katanga. Et les chiffres avancés sont alarmants. Quelle est la politique du ministère pour stopper ces décès par anémie?
En fait, il y a beaucoup de cas de décès par anémie, non seulement au Nord Katanga, mais c'est une situation générale. Vous savez que la RDC est un pays endémique du paludisme. Chaque année, nous perdons à peu près 180 000 personnes par le paludisme. C'est l'une des plus grandes causes de mortalité. Et les plus frappés, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Actuellement, pour la province orientale et pour l'Équateur, je pense que ce doit être le cas également pour le Nord Katanga, où les prélèvements sont en train d'être faits. On vient de se rendre compte que ce n'est pas le palud grave seul. En fait, l'anémie est corrélée également à une infection qui est en train de s'associer au paludisme. Il s'agit soit de la fièvre typhoïde par le salmonella ou alors d'un germe qu'on appelle Klebsiella. C'est vrai que nous avons l'habitude d'utiliser certains antibiotiques qu'on associe quand on utilise les antipaludéens. C'est notamment l'ampicilline, le chloramphénicol ainsi que le Bactrim ou cotrimoxazole. Il a été prouvé par les études qui viennent d'être publiées par l'INRB que malheureusement ces deux germes, le salmonella et le Klebsiella, sont résistants à ces antibiotiques. Aujourd'hui, nous venons d'élaborer un nouveau protocole qui est déjà en application au niveau de la province orientale, où nous donnons les antipaludéens associés soit à la ciprofloxacine, qui est en fait un antibiotique qu'on peut retrouver en sirop disponible à moins cher, ou sinon, pour ceux qui ont des moyens, ils peuvent utiliser la céphotaxime ou la ceftriaxone, qui sont des antibiotiques un peu plus chers. Donc, cette association a permis aujourd'hui de réduire la mortalité de ces enfants. Mais au moment où nous vous parlons, dans les différents milieux cités, nous avons envoyé des antipaludéens pour le paludisme simple, mais également pour le paludisme grave, et nous venons d'envoyer un premier lot de médicaments à Isiro. Ça, c'est une contribution du gouvernement, et je viens d'apprendre que l'OMS vient de mobiliser également des doses de ciprofloxacine. Nous pourrons encore les dispatcher dans les différents milieux.
Oui, mais docteur, on a comme impression que la prévention de la malaria est abandonnée aux ONG qui distribuent des moustiquaires imprégnés. Les actions de l'État ne sont pas tellement senties.
Attention, la distribution des moustiquaires imprégnés est un programme du gouvernement de la RDC. C'est parmi les priorités dans le cadre du programme PENDES. Nous avons un financement du Fonds mondial. Mais par rapport justement à ce volet, qui est soutenu principalement par le gouvernement américain particulièrement, mais également d'autres bailleurs qui interviennent, ils ont choisi des ONG internationales. L'argent est donné à la RDC, mais il est géré au travers de certaines ONG internationales. Ces ONG internationales ont recruté des ONG nationales comme sous-récipiendaires. Mais c'est un programme du gouvernement qui est suivi par le programme national de lutte contre le paludisme. Donc c'est un programme du gouvernement inscrit dans le PENDES, le programme national de développement sanitaire.
Les paludismes par-ci, les choléras et la rougeole par-là, apparemment ces maladies vous tiennent la tête.
Le choléra aujourd'hui est devenu épidémique à l'ouest, notamment à Kinshasa, dans le Bandundu, à l'Équateur et dans le Bas-Congo, mais plus endémique, c'est-à-dire que sévit toute l'année au niveau du Katanga, au niveau du Nord Kivu et au niveau du Maniema. Donc, nous avons ce problème-là qui se pose actuellement sur l'ensemble du pays. C'est dû notamment à des difficultés d'accès à l'eau potable et c'est dû également à un problème d'assainissement du milieu. Ça, c'est un problème sérieux. Le choléra est une maladie des mains sales. Il faut le lavage des mains, la sensibilisation de la population et bien sûr, il y a un défi que nous devons relever, c'est celui d'augmenter le niveau d'accès à l'eau potable dans les différents milieux. lieu. Ça, c'est par rapport au choléra, mais par rapport à la rougeole, c'est encore un autre problème. Et ici, on est en train de se poser énormément de questions, c'est par rapport à ces enfants qui font la rougeole, mais qui ont été vaccinés. Donc, nous avons un problème sérieux, on est en train d'en discuter avec la direction et tous ceux qui travaillent au niveau du PEF, par rapport à la chaîne de froid. Vous savez, le vaccin contre la rougeole, c'est un vaccin qui est très sensible à la chaleur. Donc, nous sommes en train de vérifier la chaîne de froid pour d'abord connaître le type de vaccin, la qualité de vaccin même qui a été administré lors des différentes actions de vaccination de masse qui ont été faites dans les différents milieux. Et il y a également un problème de prise en charge. Parce que, vous savez, quand l'enfant fait la rougeole, on le soigne symptomatiquement. Lorsque l'enfant, malheureusement, vous le gardez et il y a des complications respiratoires qui surviennent, vous l'amenez en retard, la prise en charge pose des problèmes. Donc, ce n'est pas un problème de médicaments qui peut se poser. La prise en charge est bonne. Mais vous savez, il y a un problème culturel auquel nous devons nous battre. Quand quelqu'un a un enfant qui est malade, il préfère le garder chez lui, peut-être voir un tabib praticien, c'est lié aux cultures. Ça, c'est un problème sérieux que nous devons corriger. Mais globalement, le gouvernement est en train de mettre sur pied une politique de riposte à toutes ces épidémies, parce qu'il est important que nous puissions faire face à ces épidémies. Mais encore une fois, je voudrais rappeler que toutes ces épidémies liées aux maladies évitables de l'enfance, c'est la vaccination. La vaccination n'est pas l'affaire du ministère de la Santé. Nous disponibilisons les intrants, nous disponibilisons les vaccins, mais la vaccination, c'est l'affaire de tous. Le personnel de santé est là. Nous avons besoin de l'implication des communautés à la base. Sachez que tant que la couverture vaccinale est basse, vous verrez ressurgir plusieurs maladies. Vous rendez fragiles ces enfants. Chaque enfant a droit à son 5e anniversaire.
Monsieur le ministre, quand on parle de la santé, on fait aussi allusion à l'hygiène, mais ce service d'hygiène, on a l'impression qu'il a disparu complètement.
Je sais qu'il y a un problème de législation aujourd'hui. Le service d'hygiène existe et il est souvent rattaché à l'administration. Vous trouvez l'hygiène au niveau des communes, au niveau des territoires et vous trouvez également des superviseurs d'hygiène eau et assainissement au niveau des zones de santé. C'est vrai qu'il y a un problème de pratique, mais il est question que nous puissions nous mettre ensemble, ministère de l'Environnement, ministère de l'Intérieur et ministère de la Santé, pour que nous puissions définir les responsabilités de chacun. Normalement, c'est notre service d'hygiène qui devait aller dans chaque parcelle pour vérifier s'il y a une toilette, s'il y a une poubelle, comment est-ce qu'on recycle ou on est en train de faire la collecte des déchets domestiques. Mais ce travail est fait également par l'environnement. Nous allons essayer de nous mettre ensemble. Nous devons éviter de créer des interférences, mais travailler en harmonie et ça aidera à rehausser le niveau de salubrité dans nos villes et dans nos agglomérations.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous remercie.